Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes lundi 28 février 2022. Vous suivez bien la radio Nzamba Gatika Kawe. C'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. La chasse aux sorcières fait encore des victimes. Hier, les populations des collines Murombero et Muzenga, en commune Mugui, province Chibitoke, ont tué un homme et en ont blessé un autre à la machette, les accusant de sorcellerie. Et puis, c'est la peur panique sur la colline Kibati, zone Rugazi, commune Kabarole, en province Kayanza. Les Imbonerakure de toute cette zone viennent faire des entraînements paramilitaires sur cette colline avec des slogans qui terrorisent les habitants. Bientôt, des équipes d'intervention en cas de catastrophe seront formées dans des structures de santé et des écoles. Une annonce du ministre en charge de la sécurité à la veille de la journée internationale dédiée à la protection civile. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Un mort et un blessé à l'arme blanche en commune Mugui de la province de Chibitoke. Cela s'est passé dimanche soir sur les collines Mirombero et Muzenga. Les deux hommes accusés de sorcellerie auraient été victimes de justice populaire, selon l'administration communale. Des précisions avec Jacob Sibumana.
L'homme retrouvé mort à Mirombero a été tué à la machette. Il avait déjà été victime de menaces de mort à travers des tracts selon des voisins. Les mêmes sources révèlent que ces menaces venaient des inconnus qu'il accusait de pratiquer de la magie noire. L'information est confirmée par l'administrateur de la commune Mugui. La même autorité aurait à maintes reprises tenté de persuader la victime de se mettre à l'abri de ces malfaiteurs, mais en vain. Des sources policières font savoir que 4 habitants de la localité soupçonnés d'être impliqués dans ce meurtre ont été interpellés ce lundi. Criminalité toujours dans la même commune, mais cette fois-ci sur la colline Muzenga, un homme a été retrouvé agonisant à son domicile. Selon des témoignages sur place, il avait reçu plusieurs coups de machette de la part des personnes qui n'ont pas été identifiées. Des accusations de sorcellerie seraient à l'origine de ce crime selon l'administrateur de Mugui. Melkat Zokizwanayo appelle les habitants de Mugui à ne plus faire justice.
Jacob Sibomana, merci. Les Imbonerakure des collines de la zone Rugazi en commune Kabarole, province Kayanza, effectuent des entraînements militaires depuis quelques jours. Des exercices qui s'accompagnent de slogans qui font peur aux habitants de la colline Kibati où se déroule cette formation. Les habitants demandent l'arrêt de ces entraînements. Beni Akserakana, reportage.
Les habitants de la colline Kibati, en zone Rugazi, de la commune Kabarole, dénoncent la formation paramilitaire des Imbonerakure, qui se font tous les vendredis sur cette colline. Cette formation a commencé le 14 janvier de l'année en cours 2022, comme le soulignent les habitants de Kibati. Des slogans de menaces de mort à l'endroit des opposants sont entonnés par des instructeurs et repris par ces Imbonerakure en formation. Ce qui provoque une peur panique au sein de la population de la zone Rugazi, en commune Kabarole.
Nous avons peur à cause de la formation paramilitaire des Imbonerakure sur notre colline de Kibati. Ces entraînements nous font peur par les slogans dominance de mort aux opposants qui y sont entonnés. Ces entraînements ont débuté le 14 janvier de l'an 2022 en cours. Ils se font une fois la semaine. Ils se réunissent chaque vendredi sur notre colline Kibati.
La formation qui se déroule dans la localité de Kibati rassemble les Imbonerakure, des collines qui forment la zone Rugazi. Chaque colline donne une dizaine de candidats. L'objectif, selon toujours des témoins de Kibati, après la formation, ils seront envoyés dans des combats en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles burundais qui s'y prépareraient pour attaquer le Burundi.
Les instructeurs sont des anciens combattants. Parmi eux, Tia Bayouba est responsable des Imbonerakure au niveau communal. Jean-Marie Namakilido est renommé Pierre Makoto. L'objectif de cette formation, c'est d'aguerrir les Imbonerakure pour aller faire des combats au Congo. C'est lui qui osera dire qu'il n'irait pas pour avoir des ennuis. Les formations commencent dans la petite matinée à 4h du matin pour prendre fin à 7h de chaque vendredi. À Kibati réunissent des Imbonerakure qui proviennent des 8 collines de la zone Rugazi.
Les sources à Kibati indiquent en outre que ces Imbonerakure en formation sont habillés de casquettes faites en tenue militaire camouflée. Ils sont également équipés de vestes imperméables de la police nationale selon les témoins. Les habitants de Kibati demandent la suspension de cette formation parce qu'elle leur fait peur et leur rappelle des moments tristes de la guerre civile qu'a connu le Burundi. À la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, nous avons contacté par téléphone Pierre Bayoubahe, responsable des Imbonerakure dans la commune Kabarore et Berkiman Saguye, administrateur de la commune Kabarore. Tous démentent ces informations et renchérissent que la sécurité dans cette commune est relativement calme.
Penny Aksarakana. Et puis, très brièvement, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, des pluies torrentielles mêlées de grêle se sont abattues l'après-midi de ce lundi dans les localités de Rvumbu, Ngongo et Rutemé, dans la commune Bugarama, en province de Lumonge. Le bilan provisoire fait état de champs des cultures endommagées. Les habitants des localités touchées disent être en situation de besoin d'une assistance urgente. Le Burundi a besoin d'autres organisations qui s'engagent dans le domaine de la protection civile, en plus de celles qui existent. Le gouvernement prévoit de former des équipes dans des structures publiques comme les hôpitaux, les écoles, pour servir en cas de catastrophe naturelle. C'est ce que Gervais Ndirakobucha, ministre en charge de la sécurité, a indiqué ce lundi à la veille de la fête de la Journée internationale de la protection civile, célébrée chaque 1er mars. Suivez le ministre Gervais Ndirakobucha.
Depuis plus d'une décennie, notre pays enregistre un accroissement en nombre et en intensité des risques de catastrophes naturelles, dont les effets causent des déplacements internes de populations à plus de 90%. Pour l'illustration, la montée des eaux du lac Tanganyika et le débordement des eaux de la rivière Rusizi a causé le déplacement de 44 222 personnes en 2020 et 35 727 personnes en 2021. Cet état de fait doit attirer l'attention des acteurs gouvernementaux et celle des partenaires au développement qui doivent développer conjointement des aspects palliatifs et alternatifs devra permettre de continuer à alléger la souffrance des communautés affectées par des catastrophes. Au regard du rôle prépondérant que jouent les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi dans la gestion des urgences, les autres organisations sont encouragées à mettre en place des équipes chargées de la prévention des risques de secours en cas de catastrophe. Cette tâche devra être exécutée en collaboration avec le ministère et à la protection civile dans ses attributions, qui s'attirera que les milliers de à forte concentration humaine, comme les écoles, les hôpitaux, les marchés, les églises et les mosquées, disposent d'éléments formés et prépositionnés pour des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi se serait doté d'une structure de protection civile capable, entre autres, de coordonner efficacement toutes les actions de préparation et de réponse aux urgences, de conduire des évaluations rapides des besoins prioritaires pour l'assistance humanitaire et des évaluations des besoins post-catastrophe pour la réhabilitation et la reconstruction.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe.
Suite de cette édition, l'extradition des présumés auteurs du putsch manqué de 2015 au Burundi par le Rwanda nécessite une convention d'extradition entre les deux pays. C'est l'analyse du juriste maître Salvatore Minani. Pour lui, au cas où ces personnes ont le statut de réfugiés, elles ne devraient pas être livrées, comme le stipule la Convention internationale sur les réfugiés. Toutefois, maître Salvatore trouve que le Rwanda va mettre sur la balance la satisfaction des exigences du Burundi et le respect des textes internationaux. Suivez-nous.
D'abord, c'est quoi la procédure d'extradition qu'on vient de le dire? C'est une procédure qui permet à un État de se faire livrer un individu se trouvant sur un territoire d'un autre État lorsque cet individu est poursuivi pour un crime déterminé et lorsque l'État requérant veut juger cette personne. Mais alors, il y a plusieurs choses qui doivent être en jeu en cette matière, c'est que notamment il doit y avoir une convention d'extradition entre les deux États, c'est-à-dire l'État demandeur et l'État qui a accordé l'asile à la personne recherchée. Dès lors qu'il y a cette convention d'extradition, il n'y a pas vraiment d'autres conditions. Il y a même ce principe de non-refoulement qui protège les personnes sollicitées lorsque ces personnes remplissent les conditions de réfugié et qu'il y a plusieurs raisons de croire que ces personnes, une fois renvoyées dans leur pays d'origine ou dans le pays qui les demande, elles peuvent être torturées, elles peuvent être menacées au niveau de leur vie, donc au niveau du droit international, humanitaire notamment la Convention de Genève de 1951, il y a vraiment ce respect de ce principe. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les présumés putschistes qui se trouvent au Rwanda ou ailleurs même, est-ce qu'ils doivent être extradés? C'est toute la question qui se pose, mais je pense que c'est la question aussi d'intérêt. Rwanda ou tout autre pays devra mettre sur balance. Il y a donc environ 7 ans que ces personnes n'ont pas été extradées, c'est-à-dire qu'il y a des raisons que Rwanda avance, même si la demande ne date pas de 2015, évidemment. C'est une question de mettre sur balance les intérêts à préserver. Rwanda lui-même doit se poser cette question. Dois-je satisfaire à la demande burundaise? Toute la question restera de savoir, entre extrader et ne pas extrader, quel est là où les intérêts seront préservés pour Rwanda.
Maître Salvatore Minani s'est exprimé sur les ondes de la radio Isanganiro. L'analyse intervient après que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, ait déclaré que le Rwanda et le Burundi étaient en train d'étudier les modalités d'extradition des présumés auteurs du putsch manqué de 2015. Même s'il se remarque actuellement un réchauffement climatique sur le plan mondial, il y a lieu d'espérer que les choses peuvent changer positivement si les nations s'investissent. C'est ce qu'annonce le rapport du groupement international sur l'évolution du climat. Le GIEC, qui a présenté son rapport aux experts onusiens à l'occasion de l'ouverture du 5e sommet des Nations Unies sur l'environnement qui se tient au Kenya à partir de ce lundi jusqu'au mercredi. Le rapport indique aussi que plus de 120 milliards de dollars sont dépensés chaque année et que si rien n'est fait de 2030 à 2050, on dépensera plus que le double. Vanessa Muhiteka a parcouru le document pour nous.
L'équipe d'experts au Niger sur le changement climatique confirme l'urgence, mais tranquillise. Je cite, « Il y a des solutions pour limiter le réchauffement climatique. Et il faut s'en saisir », a annoncé Nathalie Yemi, auteur principal du rapport, donne l'exemple de la mer Méditerranée. Et dit qu'avec le réchauffement et la montée des eaux, les écosystèmes disparaissent, certains poissons migrent et finissent par disparaître. Selon elle, le constat est que le nombre de sardines baisse. Il faut qu'il y ait une réglementation évolutive qui prendra compte des zones de pêche et de la période de production de certaines espèces. Selon le rapport, des sommes colossales sont dépensées chaque année pour lutter contre le réchauffement climatique. Il précise qu'au niveau mondial, 128 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour contenir le réchauffement climatique d'ici à 2030. Si on ne fait rien, ce sera 300 milliards de dollars par an de 2030 à 2050. Un autre problème évoqué dans le rapport, c'est que les prévisions montrent qu'en 2050, 2/3 de la population habitera dans les villes, soit 70% de la population mondiale. Selon le rapport, c'est là qu'il faut accentuer les efforts pour limiter l'impact de l'homme. Nathalie Hilmi appelle une nouvelle génération sensible à la problématique de faire le réchauffement climatique un thème de société de premier plan.
Merci Vanessa Muiteka. Terminons cette édition par le sport en football. Le club de Bumamuru reste provisoirement premier malgré sa défaite face à Musongati lors de la 23e journée. Le club de Chibitoke est à 3 points d'Atletico New Oil, second. Au basketball, les équipes de Lemesha et Urunani s'approchent de la qualification à la Ligue nationale de basketball. Elles comptent 4 victoires chacune. Valérie Moutso.
Les éliminatoires de la Ligue nationale de basketball ont continué ce week-end dans la mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays. À Bujumbura, Dynamo a été battu par Gymkhana, 87 points à 62. Kern a battu les Hippos sur le score de 60 points à 49. Mutanga United s'est imposé devant Muzinga par 72 points à 61. Et dans le choc de cette cinquième journée, Remesha a pris le dessus sur New Star avec 5 points d'écart. 71 points à 66. À l'intérieur du pays, Imbeya de Gitega ont battu Challenge Team par 80 points à 36. Les Tigres de Makamba ont battu Carrera Lions de Rutana, 65 points à 57. Brothers Team s'est imposé devant Young Star de Kirundo par 92 points à 37. Target de Ngozi a battu New Look de Bururi par 61 points à 44. Et Messager, une autre équipe de Ngozi, a battu Jiga Basketball Club de Muyinga, 78 points à 40. Et jusqu'à présent, Orunani est la seule équipe invaincue et ils sont déjà qualifiés pour la Ligue nationale, tandis que Muzinga et Dynamo courent toujours derrière la première victoire. Au football, on jouait pour le compte de la 23e journée et 18 buts ont été marqués en 8 rencontres. Kayanza United a battu Royal FC sur son propre terrain par 2 buts à 0. C'est le même score entre Musongati et Buma Mourou en faveur de Musongati et aussi entre Atletico New Oil qui a battu Flambeau de l'Est par le même score de 2 buts à 0. Les Crocos ont battu Olympic Star 2 buts à 1. Le club d'Aigle Noir a quant à lui battu Buja City par 3 buts à 2 et Vitalo et Messager Ngozi se sont quittés sur un match nul et vierge. Après cette 23e journée, Bumamoro qui est toujours en tête est sous la menace d'Atletico New Oil qui est en embuscade avec 3 points de retard. Les deux dernières places sont occupées par les Crocos à la 15e place avec 15 points et la formation de Royal FC qui est la antenne rouge du championnat avec 14 points.
Valérie Moutso. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamagatika Kawe pour la production de ce journal. À tous, auditrices, auditeurs, merci de nous rester fidèles. Au revoir.